Connaissez-vous Sophonie? Pas très bien. Voilà. Alors, si vous voulez trouver Sophonie, le mieux, c'est de vous rendre à la fin de l'Ancien Testament. Et puis, vous remontez les livres à l'envers. Hein. Donc, Malachie, Zacharie, Agée, et vous tombez sur Sophonie. Il n'est pas gros. C'est un prophète. Alors, si vous avez une Bible blanche, il y a un moyen encore plus simple, c'est la page 602. Voilà. C'est un prophète qui a vécu environ 640 ans avant Jésus et qui va nous parler d'un événement qui n'a pas encore eu lieu. Aujourd'hui, je vais vous inviter à lire trois textes dans notre Bible qui parlent du même événement, de la même période. Les deux autres textes seront tirés du Nouveau Testament. Ils ont été donc écrits plus tard, après la venue de notre Seigneur. Là, on est 640 ans avant la venue de Jésus. Alors, chapitre 1, verset 1. Parole que l'Éternel adressa sous le règne de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, à Sophonie, fils de Couchi, fils de Guédalia, descendant d'Amaria et d'Ézéchias. Bon, ça ne vous dit pas grand-chose. C'est simplement pour vous dire que Sophonie avait dans ses ancêtres un roi. « Je vais tout balayer de la surface de la terre, déclare l'Éternel. Je balayerai les hommes, de même que les bêtes. Je balayerai aussi les oiseaux dans le ciel et les poissons des mers. Tout ce qui fait trébucher les méchants, je retrancherai l'homme de la surface de la terre, déclare l'Éternel. Je vais lever la main contre le peuple de Juda et contre tous ceux qui habitent Jérusalem. Je supprimerai de ce lieu ce qui subsiste de Baal. Je ferai disparaître le souvenir de ses desservants effrénés avec ses prêtres. Je ferai disparaître tous ceux qui se prosternent devant l'armée du ciel sur les toits des maisons et ceux qui se prosternent devant l'Éternel et jurent par lui tout en prêtant serment au nom du dieu Moloch. Et ceux qui se détournent de l'Éternel et qui ne soucient pas de lui et qui ne le consultent pas, que l'on fasse silence devant le Seigneur l'Éternel. Car il est proche le jour de l'Éternel. L'Éternel a prévu un sacrifice, il a convoqué ceux qui sont invités. Au jour du sacrifice de l'Éternel, j'interviendrai moi-même contre les ministres du roi, contre la cour et contre tous ceux qui s'habillent à la mode étrangère. Attention hein, si vous portez des jeans. Hein. En ce jour-là, j'interviendrai aussi contre ceux qui sautillent sur les marches du trône, contre ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. On entendra en ce jour-là, l'Éternel le déclare, près de la porte des poissons, des cris retentissants, des hurlements dans le nouveau quartier et venant des collines, un fracas formidable. Habitants de la ville basse, hurlez, lamentez-vous, parce que il est anéanti le peuple des marchands, tous ceux qui croulent sous l'argent vont être exterminés. J'espère qu'il n'y a pas de traders parmi nous. En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des torches et je châtierai tous les hommes figés sur leurs réserves comme un vin sur la lie, se disant en eux-mêmes que l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Leurs richesses seront pillées, leurs maisons dévastées, ils auront bâti des demeures mais ils n'y habiteront pas, ils auront planté des vignobles mais ils n'en boiront pas le vin. Car voici qu'il est proche le jour de l'Éternel. Oui, ce jour grand est proche, il arrive à grands pas. On entendra des cris amers au jour de l'Éternel. Le guerrier le plus brave poussera de grands cris. En effet, ce jour-là est un jour de colère et un jour de détresse et de malheur, un jour de destruction et de désolation, un jour d'obscurité et d'épaisses ténèbres, un jour de nuages et de brouillard épais. Jour où retentiront la sonnerie du cor et des clameurs de guerre contre les villes fortes et le haut tour d'angle. Je plongerai les hommes dans la détresse et comme des aveugles, ils marcheront en tâtonnant parce qu'ils ont péché contre moi, l'Éternel. Leur sang sera versé comme de la poussière et comme des ordures, leurs corps seront jetés. Leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la colère de l'Éternel, lorsqu'il consumera la terre tout entière par le feu de son amour bafoué. Car il provoquera, et ce sera épouvantable, la destruction totale de tous ceux qui habitent sur la terre. C'est pas souvent qu'on entend des choses comme ça, hein? Il y a plus gai comme message, hein? On entend rarement cela. La fin du monde est proche et Dieu va punir tous les hommes et les détruire. Ne parlons pas d'annoncer ça dans la rue ou de dire ça dans les conversations au coin du feu avec votre voisin. Mais même dans les églises, on ne parle pas tellement de cette réalité. Et pourtant, ce jour de l'Éternel, jour grand et redoutable, c'est le sujet de nombreux textes dans notre Bible. Il n'y a pas que Sophonie qui en parle. Pêle-mêle, le psaume 76, Ésaïe 2, Ésaïe 13, Jérémie 46, Ézéchiel 7, Ézéchiel 39, Joël 2, Amos 5, Malachie 4, Apocalypse 19, etc., etc. Nous sommes tellement habitués à la grâce de Dieu. On l'a chanté, c'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, que nous oublions les exigences de sa sainteté. Heureusement, Jean qui est là et Jean qui est dans notre Bible, nous les ont rappelés aujourd'hui en lisant la première épître de Jean. Il n'y a pas de ténèbres dans notre Dieu. Et nous sommes aussi façonnés par la mentalité de notre monde. Notre monde veut bien, à la rigueur, qu'on lui parle d'un Dieu d'amour. Un jour, dans mon cabinet médical, j'ai invité une de mes patientes à rejoindre notre groupe de maison. Alors, elle hésitait, et puis elle me dit, « Oh, ben oui, peut-être, ça m'intéresse, mais j'espère qu'on va porter parler de ce qui fait le fondement, le principal du christianisme. » Je lui ai demandé, c'est quoi, d'après vous, le principal du christianisme? Elle m'a dit, c'est aimez-vous les uns les autres. Oui, il y a ça dedans, effectivement. Est-ce que c'est vraiment le principal du christianisme? Je crois pas. J'ai dû faire une drôle de tête, elle n'est jamais venue. Mais voilà ce que notre monde veut entendre. À la rigueur, on veut bien entendre parler d'un Dieu d'amour. Du bon Dieu. Du Dieu qui aime. Mais un Dieu qui demande des comptes. Un Dieu qui juge. Un Dieu qui a des exigences. Oh ben quelle horreur. C'est pas moderne. Remarquez, c'est pas nouveau. C'est pas que d'aujourd'hui. Voilà. Donc, on a lu « Je plongerai les hommes dans la détresse parce qu'ils ont péché contre moi ». C'est en gros ce que dit le premier chapitre du livre de Sophonie. Mais ce n'est pas nouveau. À l'époque de Pierre, c'était un collègue de Jean. Il a aussi écrit des épîtres. Et à l'époque de Pierre, il y avait aussi des gens pour qui ce genre de message avait du mal à passer. Alors je vous invite à lire dans la deuxième épître de Pierre, ça c'est plus facile à trouver, vous allez à la fin de la Bible, et vous remontez un petit peu, c'est juste avant l'Apocalypse en fait. Hein. Avant l'Apocalypse, vous voyez l'épître de Jude, les épîtres de Jean, et puis juste avant les épîtres de Jean, l'épître de Pierre. Il y en a deux. Je vous invite à lire dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3, page 804 si vous avez une Bible blanche. Voilà ce qu'écrit Pierre. Mes chers amis, voici la deuxième lettre que je vous ai écrite. Dans l'une comme dans l'autre, je cherche à stimuler en vous une saine manière de penser en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. Souvenez-vous en effet des paraboles dites autrefois par les saints prophètes. C'est ce qu'on a fait, hein. On est allé chercher ce qu'a dit Sophonie il y a longtemps. Souvenez-vous des paroles dites autrefois par les saints prophètes, ainsi que du commandement du Seigneur et Sauveur que vos apôtres vous ont transmis. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront, qui vivront au gré de leur propre désir et ils tourneront votre foi en ridicule. » Vous avez déjà vécu ça, je suppose, hein? On s'est déjà un peu moqué de vous, ou beaucoup moqué de vous, parce que vous êtes croyant. Ça vous est déjà arrivé, je présume. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant « Oh, ben, il a promis de venir, mais c'est pour quand ?» Nos ancêtres sont morts, et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. Il y a un fait que les gens oublient délibérément. C'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux, il l'a rassemblée au milieu des eaux. Et de la même manière, Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. Les moqueurs oublient qu'il y a déjà eu des jugements dans le passé. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jugement où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Alors, eux, ils oublient quelque chose. Mais vous, il y a une chose que vous ne devez pas oublier, mes chers amis. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard. Parce qu'il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait, au contraire, que tous parviennent à se convertir. Pourquoi est-ce que ce n'est pas encore arrivé? Même si Sophonie, il y a longtemps, nous en parlait, pourquoi ce n'est pas encore arrivé? Parce que le Seigneur patiente et qu'il appelle chacun de nous et les générations qui se suivent pour que son peuple soit nombreux. Pardon. Mais le jour du Seigneur, ce dont nous parlait Sophonie, viendra comme un voleur, c'est-à-dire sans s'annoncer. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Mais puisque l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener? Et combien vous devez être attaché à Dieu en attendant que vienne le jour de Dieu et en attendant sa venue? Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. C'est pas tellement plus engageant que ce qu'avait dit Sophonie. Mais nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Ne vous faites pas de soucis si vous entendez dire à la radio ou à la télé que bientôt il n'y aura plus suffisamment de molybdène ou de néodyne sur notre planète, ou tout simplement pas suffisamment d'eau potable. De toute façon, cette planète-là, ce n'est pas notre avenir. Nous attendons un nouveau ciel et une nouvelle terre. Je continue ma lecture. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux dans la paix qu'il donne. Comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes. Paul, notre bien-aimé, vous l'a aussi écrit avec la sagesse qu'il lui a donnée. Il l'a fait comme dans toutes ses lettres où il aborde ces sujets. Certes, il se trouve des passages un peu difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens, comme elles le font aussi pour leur propre ruine des autres textes de l'Écriture. Donc, si vous avez parfois des problèmes à comprendre ce que Paul écrit dans ses épîtres, soyez rassurés, vous n'êtes pas les seuls. C'est déjà arrivé à d'autres. Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde à ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes qui vivent sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. Au contraire, progresser sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Je voudrais juste souligner quelques pensées de ce texte. Donc, souvenez-vous des paroles des saints prophètes d'autrefois. Ce n'est pas du temps perdu que d'aller lire les prophètes de l'Ancien Testament. Parce que notre foi, elle est basée sur des choses qui se sont annoncées, qui se sont préparées des siècles et des siècles à l'avance. Et quand Jésus est venu, qu'il a vécu, qu'il a parlé, tout ce qui a été vécu à ce moment-là avait été annoncé par les prophètes. Et tout ce qui reste à accomplir, c'est précieux pour nous de le connaître. Sachez qu'il y a des moqueurs. Ça, c'est pas très compliqué à trouver. Allez voir votre voisin de palier et dites-lui, tu sais, la fin du monde arrive. Il est assez probable qu'il va se moquer de vous. C'est triste pour lui. Et la moquerie, c'est le temps passe, rien ne change. Au temps déjà de Sophonie, on disait, mais Dieu ne fait ni bien ni mal. Ça n'a pas tellement changé avec les siècles, ni même avec les millénaires. Il y a un psaume, le psaume 10, où il est parlé des arrogants. Et les arrogants, ils disent, il ne punit pas. Il n'y a pas de Dieu. Là aussi, c'est une époque qui est ancienne. Mais ils oublient, ces gens-là, ils oublient volontairement ce qu'ils ne devraient pas oublier. Dieu a déjà montré qu'il pouvait juger et anéantir. Dieu a déjà montré que à 8 personnes près, il pouvait détruire l'humanité entière. Et s'il a épargné 8 personnes, c'est sa grâce, c'est son amour pour l'humanité qui l'a empêché de le faire. Et nous ne devons pas oublier quoi ? Que le Seigneur est patient, qu'il attend la conversion de nombreuses personnes, qu'il attend peut-être la conversion de votre voisin moqueur. Il veut qu'il y ait le plus d'hommes et de femmes possible dans ce nouveau ciel, enfin sous ce nouveau ciel et dans cette nouvelle terre que nous attendons. Nous ne devons pas oublier non plus que notre conduite doit être sainte, et que nous devons nous appuyer sur les Écritures, que nous devons être sur nos gardes pour ne pas être entraînés avec les moqueurs. Alors, puisqu'on a parlé de Paul qui écrivait, je vous invite à lire aussi un texte de Paul qui va nous montrer ce qui nous attend, nous. Premier épître aux Thessaloniciens. Là, je n'ai pas de moyen très facile pour la trouver. Elle est au milieu des autres. Page 778. Au chapitre 5. Et curieusement, il commence, le passage que je vais vous lire, par une phrase que on a déjà lue. Vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité. Donc je lis, je ne l'ai peut-être pas dit, 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 2. Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte et n'échapperont point. Personnellement, j'ai jamais accouché. Mais il semble quand même que ça soit assez difficile. Encore qu'une femme enceinte, elle est un peu avertie quand même que ça risque d'arriver à bientôt. Alors que là, pas d'avertissement. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Quand les hommes s'y attendront pas, ils diront « paix, sécurité, tout va bien pour moi ». On n'a pas besoin de Dieu. Tout va bien pour nous. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. C'est moralement qui parle, on a quand même le droit d'aller se coucher le soir. Mais ne nous laissons pas endormir par la fausse paix et la fausse sécurité, celle qui repose sur un compte en banque bien garni, ou sur une police d'assurance, ou sur une police tout court. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit, mais nous sommes du jour. Nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Ah ça, c'est rassurant quand même. Par rapport à ce qu'on a lu dans Sophonie ou dans l'épître de Pierre, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Verset 11. Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement, et édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites déjà. C'est ce que je suis en train de faire. Exhortez-vous mutuellement. Encouragez-vous. N'ayons pas peur du jour du Seigneur. N'ayons pas peur du jour du jugement. Même si nous savons qu'il va arriver. La grâce nous préserve du jugement, puisque le Seigneur a porté le jugement à notre place. Et cette grâce nous appelle à vivre en nous efforçant de lui ressembler. N'ignorons pas non plus la réalité du jugement. C'est elle qui doit nous pousser à annoncer la parole autour de nous. Parce que c'est elle qui doit nous faire voir dans toutes les personnes qui nous entourent des personnes qui seront victimes du jugement si elles ne se tournent pas vers Dieu. Nous qui sommes chrétiens, nous devons avertir ces personnes, leur parlons du salut, parler du salut. On devait cet après-midi aller faire un hors les murs. Le Seigneur nous a envoyé la pluie, donc il en a décidé autrement, ce n'est pas son heure. Ça sera pour une autre fois. Mais que ce soit de cette façon ou d'une autre, nous avons la responsabilité d'avertir les personnes qui nous entourent. Et qu'est-ce que nous allons récolter ? Le plus souvent, mépris et moquerie. Vous savez pourquoi on appelle un imbécile, pourquoi on l'appelle un crétin ? Non ? Eh bien, j'ai appris il n'y a pas longtemps que c'est une déformation du mot chrétien. Voilà, vous voyez l'estime dans laquelle nous sommes tenus. Hein? Un crétin chrétien, ce n'est pas un lapin crétin, c'est un lapin. Hein? C'est un chrétien crétin, c'est difficile à dire. Ben oui, nous sommes vus comme cela, peut-être par d'autres personnes. Mais de temps en temps, une personne va saisir la grâce de Dieu et va dire... Ce que lui la raconte, ça m'intéresse. Parce que la colère de Dieu, je veux y échapper. Parce que la colère de Dieu, je sens, je sais au fond de moi que je ne suis pas un être pur. Alors je veux y échapper, je veux saisir la gloire, la grâce. Et cette personne se tournera vers le Seigneur. Et elle pourra dire à son tour, j'attends un nouveau ciel, une nouvelle terre où la justice habitera. À notre Seigneur soit la gloire, maintenant et jusqu'au jour d'éternité. Je vous invite pour conclure à chanter un chant qui dit « Il est Seigneur » et qui célèbre le jour où il va venir pour chercher les siens et nous donner, nous introduire dans ce nouveau ciel et cette nouvelle terre.